La question essentielle, c'est de comprendre que le débat Malthus-Marx, c'est pas quelque chose de périphérique qui survient comme ça parmi d'autres questions. C'est un débat central. C'est-à-dire que Marx montre qu'il n'y a pas de loi de population autonome. Les lois de population sont déterminées par les lois de production des forces aliénatoires du capital. Donc, il y a des modes de production, il y a des phases historiques où on a besoin d'une population élargie. Et il y a des phases historiques, des phases de production où on a besoin d'une population restreinte. Donc, le phénomène mouvement dépopulation, il existe en tant qu'il est une catégorie de l'économie politique, qu'il est une des résultantes du devenir global des forces productives de l'aliénation. Malthus représente, contre Ricardo, qui représente l'économie classique, déjà une dérive vers l'économie vulgaire. C'est-à-dire que il n'y a aucune analyse du procès de production chez Ricardo, pardon, chez Malthus, alors qu'il y en a une chez Ricardo. Ricardo a très très bien compris que ce qui fait la valeur, c'est le travail. Alors il ne l'a pas compris au bout de l'analyse, parce que ce n'est pas un radical, et il ne va pas aller au bout de cette dialectique historique en comprenant que dans la valeur travail, il y a l'exploitation, puisque Ricardo n'est pas un subversif, c'est quelqu'un qui analyse le développement du capital, mais Ricardo représente les couches progressistes industrielles du capital. Donc, il représente ceux qui mettent en mouvement la modernité de la richesse industrielle. Et donc, contre l'improductivité des rentes foncières préalables, Ricardo sait désigner la vraie richesse industrielle du travail. Il ne le fait pas jusqu'au point où il deviendra un subversif. C'est ce que Marx fera avec le travail de la valeur du travail sur l'exploitation, mais il le fait. Malthus, c'est tout autre chose. Malthus, c'est les rentes usuraires. Il n'y a aucune analyse de la production et il n'y a aucune analyse de la valeur production. Tout est dans la sphère de circulation. Toute analyse de la valeur ou toute analyse de la crise qui va pas au fond de la production on reste à l'écume des choses dans des problématiques de circulation. Pourquoi y a-t-il une crise? Ben, il y a une crise parce qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. N'importe quel crétin universitaire aujourd'hui ou n'importe quel couillon sur YouTube vous dit consommation, distribution, c'est-à-dire que la crise, c'est un déséquilibre. Marx dit la crise, c'est pas un déséquilibre. La crise, c'est le rapport contradictoire, travail vivant, travail mort, avec la problématique essentielle, la problématique ontologique de la baisse du taux de profit. Donc, le délire de Malthus sur la loi de développement de la population est une loi qui est géométrique, alors que la loi des ressources, telle que Malthus, dans son étriqué borné dans la sphère de circulation, distribution, la voie, est-elle, au contraire, arithmétique.
Mais c'est quoi la différence entre les deux?
Bah, la différence entre les deux, c'est qu'une une production géométrique explose par rapport à la production arithmétique. La production arithmétique, je passe de 2 à 4. La production géométrique, je passe de 4 par échelon jusqu'à 32. Donc, la bêtise analytique de Ricardo, à savoir que la population monte, monte en soi. Ce n'est pas simplement une bêtise analytique qui montre que Malthus n'a pas d'analyse historique. C'est le présupposé d'une classe rentière, usuraire en Angleterre, qui est dans l'incapacité pour légitimer son pouvoir d'entrer dans le cœur du cœur, la loi radicale de la valeur travail. Et Marx va donc exploser le système malthusien en montrant que c'est une connerie absolue et que ce n'est pas les lois de population qui font le devenir de l'histoire, c'est les lois du devenir de l'histoire qui font les lois de population. Autrement dit, quand une population à un moment donné monte ou quand une population à un moment donné descend, ce n'est pas un automouvement spontané qui se ferait tout seul. Il est le résultat des forces productives du développement historique de l'histoire. La population est une des catégories du développement productif de l'histoire. Quand la population va se raréfier dans l'Empire romain, c'est pas parce que, entre guillemets, il y a des lois de population. C'est parce qu'il y a une décomposition de la rente foncière romaine qui va, décomposer les lois de progression démographique. Et quand on en arrive maintenant au capital, Marx, toujours articulé sur le capital, le sixième chapitre inédit, va positionner les lois de progression des forces productives et à partir de là, poser en quelque sorte l'identité caractéristique de toutes les phases du capital. Le capital a deux grandes phases dans l'histoire. Il a une phase de domination formelle et il a une phase de domination réelle. La domination formelle, c'est quand le capital n'est pas encore lui-même et qu'il est encore extrêmement dépendant des formes antécédentes. C'est un mode de production qui n'est pas homogène et qui n'est pas encore lui-même dans la pureté achevée de son lui-même. Et il y a la domination réelle qui intervient à partir de la Première Guerre mondiale, où le capital se débarrasse de toute son antériorité et il devient l'économie monde du monde de l'économie de la marchandise en mouvement. Et donc Marx dit, sans faire une analyse critique du mode de production despotique, oriental, les sociétés tribales africaines, on voit que ces sociétés ont des lois de population en fonction des déterminismes, des spécificités de leur mode de production. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce que dit M. Malthus, pour légitimer l'angoisse de la classe dirigeante qui veut restreindre la population, c'est-à-dire les gens là, pourquoi ça va si mal? C'est parce qu'il y a trop de monde. Non, il y a du monde parce que les lois de développement de l'aliénation font qu'à un moment donné, il y a une explosion démographique. Mais l'explosion démographique, elle n'est pas un en soi qui s'autoproduit. Elle résulte du développement des forces productives. Et donc à partir de là, Marx nous dit, il y a deux grandes phases dans le capital, domination formelle, domination réelle. En période de domination formelle, j'ai une loi de paupérisation absolue, la loi de paupérisation absolue et la loi de surpopulation absolue. C'est-à-dire que en domination formelle, le capital détruit tout, il ravage tout, et à partir de là, il va mettre sur les routes ce qu'il appelle les sans-réserve, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien et qui sont donc une excroissance de population nécessaire pour détruire les modes de production antérieurs. En Angleterre, au moment des enclosures, avec effectivement
Pardon, vous parlez de la domination réelle.
domination formelle.
D'accord.
En domination formelle, la loi, c'est celle de la surpopulation absolue. Et de toute façon, il faut se dire, il y a un clivage dialectique. En période de domination formelle, toutes les caractéristiques sont toujours absolues. Paupérisation absolue, surpopulation absolue. Et en période de
Ça
domination.
correspond à quoi, surpopulation absolue et.
Alors, surpopulation absolue, c'est que c'est quelque chose qui résulte du fracas de l'histoire et non pas à ce moment-là, à un ajustement à la contradiction travail vivant, travail mort dans le développement du machinisme et de la cristallisation de la plus-value. C'est-à-dire que sous Henri VIII, au moment des enclosures, on va déporter des milliers et des milliers de paysans, comme Cromwell déportera des milliers et des milliers d'Irlandais, qui seront d'ailleurs les premiers esclaves de l'Amérique, parce que les premiers esclaves de l'Amérique, avant d'être des Noirs, dans un second mouvement, ce sont d'abord et avant tout des paysans catholiques irlandais chassés de leurs terres. À la fin de la révolution cromwellienne du capitalisme anglais, la population irlandaise ne détient plus que 4 à 5% des terres dans la partie la plus extrême de la zone occidentale de l'île. Donc toutes ces populations étaient déportées. Donc Marx nous dit, il y a une paupérisation absolue au sens où l'objet du développement des forces productives, c'est de briser toutes les antécédents qui empêchent le développement de l'accumulation du capital. Donc c'est une surproduction qui est absolue parce qu'elle n'est pas ajustée à la dynamique du travail accumulé tel qu'on le rencontrera en domination réelle. C'est on détruit tout et les gens parterrés dans la gigantesque misère infinie sur les routes, c'est donc une surpopulation qui est absolue, puisqu'elle est absolument liée à la destruction de toute l'antériorité. En domination réelle, j'ai ce que Marx appelle les surnuméraires, c'est-à-dire une armée de réserve industrielle, une surpopulation relative qui est strictement ajustée à la contradiction travail vivant, travail mort, et aux nécessités d'accumulation pour que le travail vivant soit précisément cristallisé en travail machinique. Et il faut comprendre que ça n'est compréhensible qu'à partir de la compréhension du fameux hiéroglyphe dans toute sa complexité de la baisse du taux de profit. Malthus est à des années-lumière de pouvoir comprendre ça. C'est le crétinisme le plus absolu de l'auto-légitimation du capital. L'économie vulgaire, qui, contrairement à l'économie classique, qui, elle, essayait de comprendre la valeur, n'est plus qu'une économie d'auto-justification. Donc, tout doit être auto-justifié, donc le développement démographique doit être auto-justifié. Mais donc, j'en reviens à la domination réelle. En domination réelle, j'ai la réalisation concrète de la forme accomplie de la baisse du taux de profit. En période de domination formelle, là encore, je retrouve l'absolu, je suis dans une prédominance de la plus-value absolue. En période de domination réelle, je suis dans une prédominance de la plus-value relative. Domination réelle, tout est relatif. Domination formelle, tout est absolu. En domination formelle, l'accélération productiviste de l'exploitation présuppose l'usage de la plus-value absolue, c'est-à-dire le fait qu'on fait travailler les gens plus longtemps, et elle est donc une plus-value absolue, parce qu'elle n'est pas relative à la mécanisation cristallisante, elle est à proportion de l'absolu domination d'une plus-value qui vient d'un travail non payé, de moins en moins payé. C'est-à-dire que dans les mines, on faisait 8 heures, ou on faisait 9 heures, ou on faisait 10 heures, du jour au lendemain, on fait une de plus. Mais on est payé pareil.
Donc la variable, c'est le temps de travail humain, c'est pas la technologie qui va remplacer.
Donc c'est une plus-value absolue. En domination formelle, tout est absolu. En domination réelle, tout est relatif. Je n'ai plus besoin, en domination réelle, de faire travailler les gens plus longtemps. Je peux même les faire travailler moins longtemps, parce que par l'arraisonnement du travail machinique sur le travail vivant, j'obtiens une productivité supérieure. C'est-à-dire qu'en domination formelle, un salarié, même extorqué de plus-value absolue, de plus en plus absolue, ne peut pas produire plus de 24. En domination réelle, par la machinisation, il peut produire 75, 86, 560. Donc l'ouvrier le plus exploité aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont encore dans une dynamique historique où la plus-value absolue a encore une grande prépotence, par exemple les ouvriers de Bombay. C'est les ouvriers les mieux payés de Hambourg ou de Toulouse qui, au niveau du salaire relatif, sont encore plus aliénés que l'étaient leurs arrière-grands-parents en période de domination formelle. C'est-à-dire que...
Les tâches physiques étaient plus dures.
Alors, le travail en domination formelle est beaucoup plus épuisant, mais le taux d'exploitation est mesuré par le salaire relatif. Et un ouvrier très bien payé dans les chantiers navals à Hambourg, qui est payé 6 fois plus cher que son grand-père l'était en 1860, et cependant 10 ou 15 fois exploité, parce que
il crée plus de valeur,
parce que l'arraisonnement machinique, par la productivité, extorque à son travail vivant 20 fois, 30 fois, 40 fois plus.
On dit qu'il crée plus de valeur, mais la machine ne crée pas de valeur.
C'est là où il faut que les gens... si je parle, si je discute, je ne peux pas parler et discuter à partir de ma subjectivité, même si j'estime que cette subjectivité est très intelligente. Ou je m'intéresse aux lois de population et à la crise du capital et je bosse un peu, c'est-à-dire je vais lire, ou alors je la ferme. Donc, si je veux comprendre ça... Je ne vais pas le comprendre en voyant 3 vidéos et puis en réfléchissant dans ma matière grise narcissique. Je vais me confronter au texte, à l'histoire, à l'analyse et à tous les acquis théoriques du mouvement ouvrier révolutionnaire. Donc, seul le travail vivant crée de la valeur. Mais ce travail vivant qui crée de la valeur, il la crée dans un espace qui s'appelle l'espace de la concurrence mondiale. Donc, j'ai le souci de produire de la plus-value, de réaliser de la plus-value, mais de vendre le plus possible. Et pour vendre le plus possible, il faut que je produise le plus vite possible. Parce que si je produis 2 fois plus vite que le concurrent, je vais avoir des coûts inférieurs. Mais ces coûts inférieurs ne créent pas de la valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est le travail des hommes. La machine ne crée pas de valeur. La machine, elle produit par son usure une transmission de valeur qui fait que la valeur du travail humain qui l'a cristallisé est transmise aux marchandises par l'usure. Mais une fois que la machine est usée, je ne peux pas la suruser. Alors que l'homme est urusable.
Donc, elle est usée parce qu'elle ne rentre plus dans le comment.
Elle a produit sa valeur. Ouais. C'est-à-dire que l'empirie nous dit, ah ben la machine, elle est usée, elle s'arrête, elle ne marche plus.
Non, elle est usée parce qu'elle ne produit plus assez.
Mais elle a accompli son cycle. C'est-à-dire que si une machine, outil, contient du travail cristallisé humain de plus-value exploitée de 675, c'est quand elle atteint 674 et qu'elle bascule dans 675 qu'elle est usée. Il y a l'apparence, il y a l'essence, il y a le concept. L'usure de la machine, ce n'est pas simplement une usure physique. La machine se met à fumer, elle ne marche plus. Elle a accompli le temps de la valeur humaine confisquée qu'elle contenait. Donc, je ne peux pas exploiter une machine. Par contre, je peux exploiter les hommes. Donc, le nerf de l'exploitation, c'est le travail humain. Mais, alors, le béotien qui n'a jamais lu, mais qui veut quand même parler, il nous dit, mais enfin, si le capital utilise des machines, c'est qu'elles lui produisent de la valeur. Non. Elles lui produisent une accélération du temps de transmission de la valeur, mais elle ne produit pas de valeur. Donc, je vends plus en masse parce que je vends des marchandises que j'ai produites plus vite, mais Marx nous dit, au-delà du bénétisme à la Ricardo, à la Malthus, à la Quesnay, à la Smith, à la Sismondi, ce qui compte, ce n'est pas le profit, c'est le taux de profit. Donc, la masse du profit grossit puisque je vends de plus en plus. Mais le taux de profit, lui, ne cesse de baisser. Et le capital est cette organicité contradictoire qui fait qu'en permanence, le capital est condamné à accumuler les conditions de sa mort. Le parcours biologique du capital est le parcours dialectique de sa nécrologie. Donc c'est là où intervient la surpopulation relative de la domination réelle, comment faire pression sur les salaires? Alors, faire pression sur les salaires, Marx l'explique très très bien dans la 7e section du livre 1, ça a d'abord été la mise au travail des femmes. On n'a pas mis les femmes au travail pour qu'elles s'émancipent d'une cellule familiale sclérosée. On les a mis au travail parce que, entre les paramètres de la force physique, entre les paramètres de la grossesse, et bref, tous les paramètres historico-biologiques, d'emblée, on a considéré que la femme serait moins payée que l'homme. Donc, Marx nous dit, on remplace un homme par deux femmes. Et après, on a l'armée de réserve immigrée, quand on dit, on remplace un Yankee par trois Chinois. Et ce n'est pas lié au hasard si c'est un homme par deux femmes et un Yankee par trois Chinois. C'est que la modernité fait de l'armée de réserve immigrée une loi générale de population qui a sa cohérence, sa logique, sa dialectique du point de vue des luttes de classe. Ce n'est pas par hasard si cette surpopulation relative immigrée emprunte le chemin de la surpopulation relative féminine dans cette première armée de réserve de femmes mises au travail. La deuxième, c'est les immigrés mis au travail. Après la grande grève sauvage de 68, quand le capital, pour assumer la modernité de sa crise et les difficultés de plus en plus délirantes de la baisse du taux de profit, dit on va faire venir des ouvriers d'un temps immobile où la lutte de classe radicale n'a jamais existé pour remplacer le communard insurrectionnel de 68 par l'ouvrier des despotismes orientaux, africains ou orientaux qui n'aura pour objectif que la consommation ostentatoire du rapport marchand. Donc, le fait que dans les années 70, on généralise la contraception et l'avortement et que dans le même temps, on généralise le regroupement familial, ça n'est pas un hasard. Le capital ne produit que ce qui le renforce. Il n'étaye que ce qui le valorise. Donc il faut avoir une compréhension radicale à partir des Grundrisse et du capital sur la compréhension des lois de population. Et la loi de population aujourd'hui, telle qu'elle est structurée sur le concept de surpopulation relative, elle est liée à la réalité profonde de la baisse du taux de profit, Mais la baisse du taux de profit n'est pas simplement un parcours technologique, accumulatoire, matériel et chosiste. La baisse du taux de profit, c'est une réalité sociale de lutte de classe qui intègre l'ontologie radicale de notre volonté de jouir, de notre volonté d'émancipation, de notre volonté d'un autre monde. Faut surtout pas s'imaginer que la baisse du taux de profit et les lois que Marx positionne dans les Grundrisse et le Capital, c'est des catégories matérialistes de devenir historique inerte de marchandises matérielles. Marx n'a pas écrit une économie politique nouvelle, il a écrit une critique de l'économie politique. Donc, il ne s'agit pas de se servir de l'économie pour aller plus loin. Toute l'économie universitaire classique officielle, c'est de la merde. Faut pas aller chercher chez Keynes, chez X, chez Y, pour essayer de trouver des trucs et aller plus loin. Faut foutre tout ça à la poubelle pour produire une critique de l'économie politique.